Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Et je vais dire un mot pour présenter ce programme de recherche qui démarre ce soir. Alors je voudrais faire deux choses ce soir, dire un mot en préambule sur quelle est l'idée générale de ce programme de recherche qui va durer donc, selon le protocole du collège, pendant 4 ans et demi pour être donc 9 semestres. Et puis, comme annoncé par les titres de la séance, la séance portera sur une séance d'introduction à l'œuvre, disons, pré-psychanalytique de Mannoni. Alors, pourquoi géographie de la psychanalyse et décolonisation de soi et non pas histoire, par exemple, histoire de la psychanalyse et décolonisation de soi? Pourquoi le choix de la catégorie de géographie? Je crois que géographie, ça peut... Je préférais intituler ou faire appel à la géographie pour défaire ce côté imaginaire qui a toujours une histoire. L'histoire, quelle qu'elle soit, voilà, on cherche toujours une cohérence, un sens, quelque chose. Et l'histoire de la psychanalyse me paraît souvent très, très affectée par cette idée qu'il y aurait d'une certaine manière, ou qu'on pourrait retracer un mouvement d'ensemble, un mouvement général. Oui, ça n'a pas été possible.
Le responsable d'Ali, c'est pas possible.
Bon, d'accord, merci en tout cas.
Merci.
Alors, d'autant plus que quand on touche à la question... on se représente souvent l'histoire de la psychanalyse comme quelque chose qui aurait procédé, d'une certaine manière, par émanation, à partir de l'Europe, et de l'Europe centrale, parce que la psychanalyse naît dans la Mitteleuropa, dans le monde juif, germanophone, etc. Donc, la psychanalyse, pour quelqu'un entre en contact avec les mondes coloniaux, et d'abord les grands pays du colonialisme moderne, comme la France et la Grande-Bretagne, il faudra attendre les années 20. Il faudra attendre les années 20. Dans ma propre généalogie, dans mes recherches, je considère qu'il y a le texte d'une conférence d'Ernst Jones qui date de 24, qui s'intitule The Island of Ireland, l'île d'Irlande, qui est peut-être la première tentative de mobiliser la psychanalyse dans un cadre d'explication d'une relation coloniale. Dans ce cas-là, il s'agit de la relation entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, qui était déjà considérée, disons, un cas de colonialisme antérieur ou interne. On sait que la question du rapport entre la question irlandaise aura une très grande importance aussi pour les penseurs de décolonisation est-européenne. Donc la question irlandaise est une question qui était très présente dans les années entre les deux guerres. Donc dans cette intervention, Jones considère, alors c'est un texte de psychanalyse appliquée, dirait-on comme ça, il considère qu'aujourd'hui peut paraître un peu vieilli, il considère qu'il y aurait un anthropisme maternel propre à la culture catholique irlandaise qui aurait besoin de l'intervention anglaise pour pouvoir être surmontée. Et cet attachement viscéral, cette résistance des Irlandais à rentrer dans l'Union, dans la Grande-Bretagne, serait en partie lié à cette composante qui à la fois serait installée dans la mythologie celtique, mais aussi renforcée par le catholicisme, etc. Donc c'est un texte assez intéressant parce que il sera repris par exemple par certains élèves de Jones. Moi, j'avais passé pas mal de temps à étudier l'œuvre d'un psychanalyste qui était Owen Berkeley Hill, qui était un des fondateurs de la société psychanalytique indienne. Et c'est lui qui a introduit la psychiatrie, Anand, directeur du premier asile psychiatrique indien, qui reprend les thèses de Jones, mais les applique au monde hindou, hein, par exemple. Donc il y a toute une tentative de Jones de justifier, par exemple, la présence britannique en Inde à partir de cette idée, hein, qu'il y aurait quelque chose dans la... Il transpose les arguments que Jones avait utilisés pour les Irlandais, il les transpose aux hindous, hein, moyennant toute une érudition orientaliste tout à fait dense, etc. Mais l'idée centrale reste celle que l'hindouisme, comme le catholicisme irlandais, serait d'une certaine manière resté en phase symbolique préphallique, et qu'il faudrait l'intervention de l'homme européen pour faire rentrer les hindous dans l'histoire. Alors que l'arrimage féminine ou maternelle constituait un blocage ou quelque chose qui... Voilà, cet argument que j'ai simplifié à l'extrême, et on le retrouve donc dans les textes de psychanalyse appliquée de Berkeley Hill des années 20, tous publiés dans l'International Journal of Psychanalysis. Mais je disais, plus en général, je crois qu'on se représente toujours l'histoire de la psychanalyse donc, comme quelque chose qui vient par émanation d'Europe et qui petit à petit s'élargit traverse l'Atlantique, aux États-Unis, à l'Amérique du Sud, et souvent quand on parle même dans des colloques, par exemple sur la psychanalyse dans les mondes extra-européens, etc., on parle de diffusion de la psychanalyse, de ce qui résiste dans des cultures extra-européennes à cette diffusion, etc., comme si c'était un mouvement, hein, de cette sorte. À partir d'un centre dont il s'agirait et qui serait idéalement qui pourrait se répandre indéfiniment s'il ne trouvait pas des résistances politiques ou culturelles particulières. Alors, d'une certaine manière, on peut dire les choses autrement. Il y a aussi une image dans l'histoire de la psychanalyse d'occidentalisation progressive de la psychanalyse. C'est-à-dire la psychanalyse naît, et d'une certaine manière, cela fait partie aussi du parcours biographique de l'homme Freud. Hein. Freud venait d'une famille de juifs de l'Est, hein, Ostjude, comme on les appelait à Vienne à l'époque, de Moravie, à Vienne. Il termine sa vie en Grande-Bretagne, il y a quelque chose... Et la psychanalyse, que Freud pensait encore jusqu'à l'époque de la Première Guerre mondiale, comme pouvoir avoir un avenir important dans l'Europe de l'Est, vers l'Est, vers le monde, vers la Russie, vers... à Budapest, Budapest était un foyer important. Progressivement, la diffusion de la psychanalyse vers l'Europe de l'Est se ferme, hein, à partir de l'époque stalinienne, à la fin des années 20, déjà en Union soviétique, c'est compliqué, la psychanalyse sans le souffre, etc. Donc effectivement, il y a un mouvement où il y a ces mouvements-là, la diaspora juive vers la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il concourt, voilà, tout semble d'une certaine manière participer à cet imaginaire historique qu'on a de la psychanalyse comme un mouvement go west, hein, aller vers l'Occident et vers une certaine occidentalisation. Certaines images que nous utilisons parfois quand on parle de la psychanalyse, comme par exemple celle des pionniers, hein, les pionniers de la psychanalyse, pour qualifier les premières générations, est prise dans cet imaginaire, me semble-t-il aussi, sans parler d'images comme la conquête d'un nouveau continent, hein, l'identification connue de Freud à Christophe Colomb, au conquistador, la conquête d'un nouveau monde, etc. Donc il y a une superposition entre différents éléments, donc, hein, la diaspora juive, la fermeture à la psychanalyse causée par le stalinisme et par le nazifascisme progressif qui pousse la psychanalyse vers l'Ouest, et cet imaginaire colonial, disons, ces métaphores coloniales qui circulent, qu'on retrouve chez Freud lui-même. Tout ça concourt à construire le soubassement de cet imaginaire comme ça qui est... occidentaliste, disons. Alors, quand la psychanalyse prend pied après en Amérique du Nord, et plus tard, dans la deuxième après-guerre aussi en Amérique latine, donc dans un monde dans un continent qui a aussi qui a été aussi colonial, les choses ne changent pas véritablement, hein, j'ai l'impression, parce que souvent, par exemple, on considère la diffusion du lacanisme en Amérique du Sud a souvent été considérée comme une sorte de résistance politique et culturelle à l'américanisme de la psychanalyse de l'IPA, hein, mais ça reste dans un cadre occidental, hein. C'est-à-dire même le lacanisme au Mexique, en Argentine, par exemple, qu'on retrouve, est pris tout en se définissant par contraste à la psychanalyse nord-américaine, il reste dans cet imaginaire occidentaliste, pour faire en partie comme une sorte de pli et d'exception interne, mais on ne retrouve pas, c'est seulement plus récemment, que la question, disons, postcoloniale ou décoloniale commence à travailler la psychanalyse latino-américaine. Donc voilà, c'est pour ça que l'histoire de la psychanalyse, plutôt que l'histoire de la psychanalyse, géographie, le thème géographie peut peut-être nous aider à défaire cette totalisation imaginaire et à produire une sorte d'effet de dissémination ou de diffraction. Aller voir d'une certaine manière, aller chercher des moments, des séquences historiques, des conjonctures dans lesquelles la psychanalyse aurait suivi un autre mouvement. Non pas un mouvement vers l'ouest, mais vers le sud, ou vers l'orient, hein, vers l'est. C'était un peu l'idée que je m'étais donné un peu comme méthode pour mes recherches des années passées sur l'histoire de la psychanalyse dans l'Inde coloniale, par exemple, et que je vais donc reprendre et prolonger ici dans ces programmes de recherche. Alors ce soir, donc géographie d'ailleurs l'appel, oui, ça sera ma dernière remarque préliminaire. D'ailleurs, disons, cet appel d'une certaine manière à l'espace contre l'histoire est un geste absolument fréquent dans la pensée de la deuxième partie du XXe siècle. On le retrouve depuis les courants, on le retrouve chez Foucault, on le retrouve chez Benjamin, on le retrouve chez Gramsci, on le retrouve dans le marxisme, dans le structuralisme, on le retrouve dans énormément de courants de pensée. On pourrait dire d'une certaine manière, pour simplifier à l'extrême, que si le XIXe siècle avait été le siècle de l'histoire, hein, où tout était centré sur la catégorie d'histoire, que ce soit l'histoire évolutionniste, que ce soit l'histoire de l'idéalisme, que ce soit le marxisme, etc., le siècle de l'histoire, le XXe siècle, et en particulier la deuxième partie du XXe siècle, joue d'une certaine manière l'espace contre l'histoire, ou quelque chose d'une... Ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on retrouve... énoncé comme tel dans plusieurs des textes de Foucault. Il s'agirait comment faire de l'histoire en passant par l'espace et non pas par le temps, d'abord. Et je crois que la psychanalyse est aussi prise en partie, et aussi de la partie. Dans la psychanalyse elle-même, il y a d'une certaine manière une sorte de refonte ou de réforme de la conception d'histoire à travers aussi des notions spatialisantes comme par exemple l'atopique ou sans arriver chez Lacan, les derniers Lacan qui bien sûr cherchera dans la topologie quelque chose qui puisse dessécher ces penchants pour l'histoire dont la psychanalyse a aussi en partie hérité mais à laquelle elle ne se résume pas. Donc voilà, comme déclaration des méthodes très générales, je crois que c'est toujours, ça peut être toujours utile d'essayer de faire jouer alors il y a beaucoup de notions, et ça peut être l'espace, ça peut être disons, la notion de cartographie, la notion, certains auteurs comme David Harvey parlent par exemple des matérialismes historico-géographiques. C'est intéressant, non? C'est-à-dire, matérialisme historico-géographique, pour voir qu'est-ce que dans la composante géographique va déranger un récit historique qui est trop cohérent, qui est trop consistant, qui devient imaginaire. Voilà. Alors, ce soir, je vais faire maintenant une introduction donc à... Le séminaire de cette année portera sur Mannoni, essentiellement, donc sur l'œuvre de Mannoni qui avant Mannoni, d'une certaine manière, qui avant les Mannoni connus, les Mannoni psychanalystes, c'est-à-dire cette œuvre qui est encore une œuvre de transition, au sens biographique, au sens intellectuel, au sens politique, etc., entre la première partie de la vie de Mannoni, celle d'un professeur de philosophie qui a passé presque un quart de siècle dans le monde colonial, et les Mannoni psychanalystes plus connus. Alors, le 23 février 1946, Octave Mannoni, un assez obscur professeur de philosophie au lycée Gallieni de Tananarive, qui est l'ancienne dénomination de l'actuel Antananarivo, capitale de Madagascar, note dans ses carnets un programme de travail à la fois existentiel, intellectuel et politique pour les années à venir. Et je vais vous les citer, ces programmes notés dans ses carnets. Premier point, mon travail professionnel, dont les limites sont assez mal définies et où il est essentiel, moins pour des raisons matérielles que morales, que je puisse avoir les sentiments d'une réussite. Deuxième point, c'est rattachant à ce travail, il me faut apprendre la langue malgache et avancer dans les domaines obscurs et imprécis de la psychologie interraciale. Troisième point, me mêler à la vie collective de Madagascar, par les syndicats, les groupes d'études communistes, me mêler à une vie véritablement franco-malgache. Quatrième point, ne pas négliger les travaux acceptés, films, livres, conserver assez d'intérêt pour un peu de poésie personnelle. Sixième, pousser un travail philosophique tourné sur les concrets et susceptible de conduire au perfectionnement personnel. Enfin, m'amuser un peu avec de la peinture, de la photographie et de la botanique. Bon, Mannoni, qui a déjà 45 ans lorsqu'il rédige ces lignes, et qui à cette époque n'a encore quasiment rien écrit, sinon quelques poèmes, et qui a déjà passé plus de 20 années, je disais, dans le monde colonial, en qualité de professeur de philosophie entre la Martinique, la Réunion et surtout Madagascar, où il est affecté depuis une quinzaine d'années, donc au lycée Gallieni, annonce ici le tournant qui sera le sien et qui en fera les premiers auteurs à avoir explicitement mobilisé la psychanalyse pour un examen du colonialisme et l'élaboration d'une série d'hypothèses quant à son dénouement possible et ses effets sur la longue durée. Nous sommes donc au début de l'année 46 et on peut dire qu'à cette époque, le processus de décolonisation politique est bien dans l'air, mais qu'il n'a pas encore véritablement démarré. La France est encore en phase constituante et Mannoni, professeur de philosophie, versé dans la phénoménologie, mais nourri aussi d'un certain savoir colonial, ethnographie, récits des voyages, production des missionnaires jésuites, et qui a rencontré Lacan en 1945, pendant un semestre de congé accordé aux fonctionnaires des colonies après la guerre, ayant commencé une analyse avec ces derniers, entrevoit à ces moments la possibilité d'un tournant, à la fois personnel et collectif. Pour ce faire, les programmes énoncés semblent assez clairs. Il faut contrarier le penchant idéaliste de la philosophie, s'impliquer socialement et politiquement, sortir du monde colonial pour intégrer une vie véritablement franco-malgache, apprendre la langue malgache, bref, dépasser certaines grandes lignes de partage, à la fois objectives et subjectives, qui structurent le monde colonial, un monde dont on ressent bien qu'il est fini, sans savoir exactement quelle forme précise va prendre une telle forme. N'hésitez pas à m'arrêter si à un moment donné il y avait quelque chose de confus ou si mon accent prenait le dessus. Naturellement, les points les plus singuliers du projet que je viens de lire et que j'entends ici mettre en exergue, c'est le deuxième. Lorsque Manoni écrit « Il me faut apprendre la langue malgache et avancer dans le domaine obscur et imprécis de la psychologie interraciale ». Or, Manoni n'apprendra jamais la langue malgache. Et on lui reprochera, d'ailleurs, mais avancera bel et bien dans les domaines obscurs et imprécis de la psychologie interraciale. Et c'est là au point qu'après avoir tenté sans succès de prendre la direction des affaires culturelles sur la Grande Île, et avoir été le directeur éphémère de son principal organe, la Revue de Madagascar, Manoni concentrera tous ses efforts dans la rédaction de son premier livre, écrit à Madagascar entre l'automne 1946 et l'été 1948, mais retravaillé et édité un peu plus tard, à Paris, en 1950, au Seuil, donc Psychologie de la colonisation. C'est un livre injustement oublié, que je m'évertue, certains parmi vous ne le savent que trop bien, de remettre en jeu dans les débats et la réflexion actuelle quant à ce que la psychanalyse peut apporter à la question postcoloniale. Autrement dit, je crois utile, voire nécessaire, une certaine archéologie de cette question, afin de voir quand et comment elle s'est déjà présentée à l'horizon psychanalytique, et avec quelles percées et quelles limites. Alors, je disais que Manoni va se tenir pour l'essentiel à ses projets formulés en février 1946. Seulement deux événements extérieurs, imprévus, viennent troubler son plan de travail analytique et auto-analytique. Le premier n'est autre que celle qu'on appelle la Grande Révolte malgache de 1947, qui mobilise de façon inattendue les populations de la côte orientale et qui sera durement réprimée par les forces françaises, appelant à la rescousse des troupes coloniales, surtout sénégalaises, mais qui représentera un choc certain et le premier grand soulèvement dans l'Empire français après la Deuxième Guerre. Si on accepte Sétif, mais Sétif, ce n'était pas un soulèvement tout de suite. C'était quelque chose de soulèvement venu après la répression. Alors, je ne traiterai pas de cet épisode historique important et oublié aujourd'hui, car je compte y revenir en détail la prochaine fois, en essayant de lire l'analyse qu'en fait Manoni vers la fin de sa psychologie de la colonisation, en relation avec d'autres analyses avancées par ce courant historiographique largement issu du marxisme critique, qu'on appelle les subaltern studies. Comment penser les révoltes des groupes sociaux dits subalternes, c'est-à-dire issus le plus souvent de la petite paysannerie et non encadrés par aucune organisation syndicale ou partidique? Quel rôle jouent de telles révoltes, souvent oubliées par l'historiographie officielle, dans la décolonisation? Pourquoi est-ce qu'elles apparaissent comme impensables, des sortes d'accidents de l'histoire? Quel rôle y jouent les facteurs religieux? Voilà quelques questions posées par les historiens subalternistes, surtout indiens, s'inspirant souvent de la pensée d'Antonio Gramsci, mais aussi de Foucault et d'autres auteurs français, que l'on retrouve étonnamment chez Manoni, quoique formulées autrement, et sur lesquelles donc je reviendrai la prochaine fois. Pour l'heure, je vais juste rappeler que la Grande Révolte malgache de 1947 vient donc s'inscrire dans les livres de Manoni, lesquels prend aussi la tournure inattendue d'un livre politique, directement aux prises avec une conjoncture précise, celle d'une révolte dont il s'efforce de produire une lecture à chaud, lecture en partie psychanalytique, mais aussi politique. Bref, l'occurrence du soulèvement de 1947 a pour effet de politiser les livres de Manoni. Ce n'est pas seulement un livre d'ethnographie appliquée, comme souvent... Ça, c'est la première partie, mais sur laquelle portent la plupart des critiques qui ont été faites à Manoni, mais il y a trois parties, j'y reviendrai. Et la deuxième partie est occupée par l'analyse de cette révolte. Deuxième circonstance externe qui vient donc troubler les plans sur les moyens termes de Manoni, c'est l'échec de sa tentative de carrière en tant que fonctionnaire au service d'information de Tananarive. C'est ainsi qu'on appelait la section culturelle de l'administration coloniale. Au total, il n'occupera ses postes que pendant 6 mois, débarqué brusquement par les nouvelles gouverneurs, et c'est là avant l'éclatement de la révolte. Manoni passera sa dernière année sur la Grande Île en occupant à nouveau son poste de professeur de philosophie entre septembre 1947 et l'été 1948. Il est donc sur place pendant la révolte, mais ce n'est pas un tel événement qui le poussera à écrire Psychologie de la colonisation, comme on le prétend parfois à tort. On a vu en effet que son projet, oui, on trouve souvent dans la littérature d'histoire chez les historiens, je pense surtout un article Manoni au secours du colonialisme, qui, on trouve souvent, qui parle de la thèse que ces livres ont été écrits pour encadrer et donner une lecture réductive de la révolte de 47. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Les livres étaient déjà en grande partie écrits quand la révolte éclate. Et d'une certaine manière, justement, ce qui est intéressant, c'est que cet événement vient d'une certaine manière troubler les plans de Manoni et y introduire une composante supplémentaire. Donc, et les carnets, pour ça, sont un instrument précieux. Les carnets de Manoni ont été publiés donc, à la mort de Manoni par Manoni dans une version expurgée, mais qui reste un document précieux. Alors, ces éléments suffisent pour contextualiser la genèse donc, des psychologies de la colonisation. Si vous souhaitez davantage de détails, y compris sur les années martiniquaises de Manoni, et son passage à La Réunion, vous pouvez vous référer à l'excellent article du sociologue François Vatin, intitulé « Otave Manoni et sa psychologie de la colonisation, contextualisation et décontextualisation », paru dans la Revue du Mons en 2011, et jusqu'aujourd'hui les plus complets et les plus fiables textes d'introduction à son œuvre pré-psychanalytique. Oui, alors c'est Otave Manoni, 1899-1989, et sa psychologie de la colonisation, contextualisation et décontextualisation, Mons, Revue du Mons, 2011. On trouve en ligne à libre accès. Alors, qu'est-ce que... Bon, je reviendrai peut-être dans la discussion sur ce que Manoni avait fait, avait produit à Martinique, à La Réunion. C'est presque anecdotique, mais il y a quand même quelques éléments intéressants. Alors, je profite ici pour faire une précision importante. L'œuvre de Manoni, psychanalyste, composé essentiellement, vous le saurez probablement, dans les années 60-80, est donc fort connu, souvent cité et facilement accessible. C'est par contre son œuvre pré-psychanalytique, rédigée à la fin des années 40, totalement prise dans la question de la décolonisation, qui semble quasiment oubliée et sur laquelle donc va porter ma révisitation. Cette œuvre inaugurale des transitions se compose de trois parties. Alors, Psychologie de la colonisation, donc rédigée entre 46 et 48, mais publiée en 50, dont plusieurs extraits paraissent entre-temps dans des revues comme Les Temps modernes, Chemin du monde et la Revue des psychologies des peuples. Je reviendrai dans un instant sur... Deuxième constellation d'étés, un texte original paru dans la Revue Esprit en 51, intitulé La plante du noir, et un texte psychanalytico-littéraire, troisième... Un texte psychanalytico-littéraire tout à fait inclassable, à la fois sur la bureaucratie coloniale et sur son affranchissement personnel du monde de la colonie, intitulé, là aussi les titres flottent, intitulé, la première édition c'est Lettre à Monsieur le Directeur, Lettre à Monsieur le Directeur. Monsieur le Directeur c'est Jacques Lacan, même s'il n'est pas la deuxième, mais j'en parlerai sur son deuxième titre, La Machine. Hein. Le texte donc est publié la première fois en 51, toujours au Seuil, et puis repris en 71 chez Chou, avec les titres, à mon avis, plus... bien sûr, plus carcaillants, mais aussi, voilà, plus simple aussi à citer, La Machine. Donc je vais en parler sur ces titres-là. Et repris une troisième fois, encore à la mort de Manoni, sur un titre encore modifié légèrement, Lettre personnelle, fiction lacanienne d'une analyse. C'est rigolo parce que les deux livres, donc Pré-psychanalytique de Manoni, tous les deux connaissent trois éditions, à chaque fois avec un titre différent. Ce qui montre vraiment, d'une certaine manière, que ce sont des livres qu'on ne sait pas exactement où situer, à qui ils doivent s'adresser. L'adresse change. Si le titre est, en principe, le titre archontique, comme disait Derrida. Alors, maintenant je vais dire un mot donc sur ces trois. Ce soir, en fait, je vais essayer de ne pas parler de psychologie de la colonisation, mais parler de ces textes qui sont liminaires, qui sont aux marges de psychologie de la colonisation, qui l'accompagnent, qui les préparent. Alors, Pour ce qui concerne les articles publiés entre 48 et 49, dans différentes revues, une femme anonyme définitivement entrée en métropole, disons que du point de vue de leur contenu, ils ne nous apportent rien d'essentiel par rapport au livre, car il s'agit d'extraits ou de travaux préparatoires qu'on retrouve sans changement d'envergure dans la psychologie de la colonisation. Toutefois, ils m'intéressent pour leur localisation dans les paysages scientifiques et intellectuels de l'époque. Les lieux où un texte paraît, sa localisation dans la topographie des savoirs, nous apprend nécessairement quelque chose sur l'adresse d'une pensée. Au fait, on verra que la question à qui s'adresse un livre comme psychologie de la colonisation est assez pertinente et explique partiellement sa réception manquée ou fort limitée. Or, si on regarde où Manoni publie ses extraits et ses travaux préliminaires, on constate un spectre assez large et disparate de revues. D'un côté, il y a des revues de la gauche hétérodoxe, comme l'État moderne, bien sûr la revue de Sartre, ou Esprit, revue qui, à partir des 50, se situe ouvertement, et même un peu avant, sur des positions anticoloniales, ou encore une revue beaucoup moins connue aujourd'hui qui s'appelle Chemin du Monde, publication assez éphémère, mais à l'orientation assez proche des deux premières, dans laquelle était impliqué par exemple Roger Caillois, et dont le dernier numéro, le cinquième, intitulé « Fin de l'ère coloniale », point d'interrogation, contient, outre l'intervention de Manoni, celle d'André Leroy-Gourand, de Théodore Monod et d'Aimé Césaire. La ligne de la revue « Chemin du monde » est pour une décolonisation, et pour la décolonisation et la construction d'un espace commun dans le cadre de l'Union française. Il y a donc une adresse évidente de Manoni à la fin des années 40 en direction de la gauche d'obéissance non strictement communiste. Mais à côté de cela, on trouve aussi un texte de Manoni dans une petite revue du Havre, intitulée « Revue des psychologies des peuples », financée par un armateur local, et qui, comme le nom l'indique, semble appartenir encore à la culture coloniale. Enfin, plusieurs extraits du livre à venir sont publiés dans une revue des psychanalystes de l'époque, Psyché, revue dirigée par l'excentrique Maryse Choisy. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit, c'est une vieille revue. Figure inclassable, donc Maryse Choisy, entre dandisme, ésotérisme et revendications féministes, à laquelle on refusa l'entrée dans la Société psychanalytique de Paris. En tout cas, il est intéressant. C'est Maryse Choisy qui avait écrit... qui était plutôt jungienne, hein, et qui était, avait fait scandale dans les années 30, entre autres, parce qu'elle avait écrit un livre où elle pénétrait dans un bordel, elle vivait comme une prostituée pendant un certain temps, et en tirait une sorte de portrait analytique de la situation de la prostituée dans la France, entre autres, pour dire les intérêts. En tout cas, il est intéressant de constater qu'un sujet comme celui de la psychologie de la colonisation trouve place dans cette revue d'orientation jungienne, aux accents plutôt orientalistes. Il faut se rappeler que les revues de psychanalyse n'étaient pas bien nombreuses en France à cette époque et que la réception de la psychanalyse était encore polarisée, assez polarisée entre son appropriation médicale et à l'opposé l'engouement qu'elle avait suscité chez les surréalistes dans le monde philosophico-littéraire. Quant au PSF, ces derniers avaient officiellement promis une série de mises en garde vers 47-48, s'adressant aux intellectuels tentés par la psychanalyse, la suspectant d'être un facteur de dépolitisation et lui opposant une psychologie sociale humaniste. Alors, si je me perds un peu dans ces références historiques, c'est pour dire que Manoni cherche son adresse et les recherche en plusieurs directions, entre la gauche non communiste, des résidus des sciences coloniales, comme la psychologie des peuples, et la psychanalyse culturelle des matrices jungiennes, qui, elle, en dépit d'un orientalisme un peu 19e siècle, s'intéresse néanmoins aux cultures lointaines. Cela dit bel et bien quelque chose, sinon d'un flottement, du moins d'une hésitation, ou de quelque chose d'encore indéfini dans la cible de son propos. Donc, encore une fois, si vous voulez trouver la bibliographie exacte des 12 articles qui accompagnent, on les trouve dans l'article de François Vatan et avec les références précises. Un autre, alors, ça c'est pour les extraits et les articles préparatoires. Un autre élément textuel de cette période qui m'intéresse est donc, et par contre, toujours un article, mais un article original, je le disais, que l'on retrouve, que l'on retrouve pas dans la psychologie de la colonisation et qui a été sans doute écrit immédiatement après sa publication et qui s'intitule « La plante du noir ». Et c'est sans doute le texte dans lequel Manoni semble amorcer un dialogue avec la négritude et ses représentants. Il est publié au printemps 51 dans la revue Esprit, dans un numéro consacré au juste. Le numéro est très consacré à la plante du noir. Et à côté de celui de Fanon, les deux articles sont côte à côte. L'article de Manoni et celui de Fanon, l'expérience vécue du nègre, du noir. Qui sera par la suite un chapitre des peaux noires, masques blancs. Alors, il serait intéressant de comparer ces deux textes, de les lire parallèlement. Hein. Ça ferait un excellent sujet de mémoire, je crois. Ce que je ne vais pas faire ici, et je vais me contenter de signaler que Manoni tente à cette occasion de déplacer son point de vue, en essayant d'accuser réception de la demande propre au mouvement qui se réclame de la condition noire comme condition indissoluble dans le simple humanisme universaliste. Il envisage alors la plante du noir comme un acte de protestation contre l'hypocrisie de l'humanisme générique qui devrait remplacer le racisme colonial. Si le noir a été soumis en tant que noir, c'est dès lors en tant que tel qu'il veut maintenant être reconnu, et non pas simplement en tant qu'homme avec un H majuscule. Manoni n'hésite pas à comparer l'escamotage par les bons blancs, écrite cette définition, de la question noire, avec la plaisanterie, je les cite, des photographes coloniaux des naguères qui donnaient à leurs 9 clients des épreuves négatives pour leur faire plaisir. Un plaisir humiliant après coup, du fait qu'on aperçoit l'intention méprisante. C'est une citation donc du texte de Manoni. Quoi qu'il en soit, la revendication où il compare voilà, cette plaisanterie des photographes coloniaux à la posture qui d'un humanisme générique qui ferait l'économie immédiate de toute revendication du noir en tant que noir et non pas en tant qu'homme. Sans différence, sans particularité. Alors, quoi qu'il en soit, je vais en lire un extrait. La revendication par les noirs de son être noir met les blancs face au caractère factice de son idéologie humaniste. C'est la position de Manoni en 51. On a l'impression, écrit Manoni, que les nègres sont condamnés à faire tomber les masques par le fait qu'ils montrent sa peau. Et c'est les masques, c'est le thème. C'est le thème fanonien, mais repris, presque inversé. Les masques, là, les masques, c'est la masque, c'est le masque, c'est celui de l'humanisme générique, c'est pas. Mais qui est porté par les blancs cette fois-ci, ou qui est imposé aux noirs, mais. Alors voici donc un extrait de ce texte, évidemment, ce texte qui est probablement voilà, les points où, je disais, où Manoni va le plus, tente les rapprochements les plus stricts et les plus conséquents avec les thèses des représentants du mouvement de la négritude, mais qui n'aura pas vraiment de suite chez lui. Hein. C'est son point, d'une certaine manière, c'est le point où il s'arrête. Alors, écrit Manoni, évidemment, il ne faudrait pas s'imaginer que les Noirs soient plus authentiques que les Blancs. C'est la situation dans laquelle les Noirs et les Blancs sont en rapport, avec tous les poids de ce qui a été l'histoire passée de ces rapports, avec l'exigence tacite que les Noirs apportent, avec la plante qu'ils portent par sa seule présence, et qui n'est jamais oubliée, même sous la fierté. C'est cette situation par elle-même qui est dévoilante, si on ose ne pas fuir le dévoilement. On a l'impression que le nègre est condamné à faire tomber les masques par le fait qu'il montre sa peau. Voilà les points. On retrouve ici donc les thèmes fanoniens du masque, mais renversés, associés au motif sartrien de la mauvaise foi, La revendication de la peau noire interpelle les blancs en dévoilant sa contradiction. Comment se fait-il que la couleur de la peau, autrefois marqueur d'une différence essentielle, soit devenue soudainement indifférente, prétendument transparente? Les masques étant ici celui de l'homme abstrait, que la plante du noir fait tomber. Dans ce texte fort bien écrit, Mannoni annonce la critique de l'universalisme abstrait qu'il reprendra dans sa postface à la deuxième édition anglaise de Psychologie de la colonisation, un texte souvent mentionné, même lorsqu'on n'a pas lu Psychologie de la colonisation, et intitulé The Decolonization of Myself, donc qui date de 64. Souvent on cite cette formule ou ce petit texte qui a été donc rédigé par Fanon et par Mannoni en 64, et qui sera son dernier texte, la dernière occasion dans laquelle il reviendra sur la question coloniale ou de décolonisation. Après, on ne parlera jamais plus officiellement. Alors, et je reviendrai. Quoi qu'il en soit, donc, cet article de 51 se termine sur la citation d'une étude psychosociologique de l'époque portant sur l'attitude d'enfants blancs et noirs aux États-Unis à jouer avec des poupées blanches et noires. L'étude révélant que les enfants blancs ou blanches montraient un désintérêt substantiel pour les poupées black, alors que les enfants noirs montraient une nette prédilection pour les poupées blanches. Les différences raciales recouvrent des imagos différentes, semble en conclure Mannoni. L'imago du blanc reste idéalisé. La question raciale n'est pas liquidée ou liquidable par le recours à l'idéal abstrait de l'homme. Voilà la position qu'il exprime dans ce texte, qu'on pourrait utilement exhumer, et qui est, avec son autocritique de 64, donc son dernier texte, du point de vue chronologique, sur la question coloniale et raciale. Enfin, il y a cet ovni. Je vais trop vite, ça va ? Il y a cet ovni qui s'intitule La Machine. Il paraît en 51 sous le titre, donc je l'ai dit, d'abord Lettre personnelle à Monsieur le Directeur, comme une sorte de supplément littéraire et subjectif à Psychologie de la colonisation. Et sera donc réédité à la mort de Mannoni, ça c'est facile à trouver, donc sous le titre Lettre personnelle, fiction lacanienne d'une analyse. Autant les livres Psychologie de la colonisation est devenu introuvable, autant Lettre personnelle ou La Machine, on peut le trouver facilement, en librairie encore. Il s'agit en effet d'un récit semi-analytique et semi-autobiographique, construit sur les modes d'une série de lettres écrites par un fonctionnaire de l'administration coloniale à son directeur général. Ces derniers se trouvent pourtant essentiellement dépossédés de ses fonctions par l'introduction d'une machine qui est désormais censée gérer la colonie imaginaire où toute l'histoire se déroule. Imaginaire, certes, cette colonie, mais qui rassemble terriblement Madagascar. Après ses succès initiaux, la machine commence à manifester des signes inquiétants, à dysfonctionner, et finalement elle s'emballera, signalant ainsi l'écroulement d'un monde, et en même temps, un monde en même temps précaire et sclérosé. À vrai dire, il ne se passe pas grand-chose dans les livres, à part les récits du flux de conscience du narrateur, interrompus régulièrement par les signes de défaillance progressive de la machine. Tout cela sur fond de décomposition du monde colonial et de ses emblèmes. Parmi ceux-ci se distingue le personnage de Vénesson, qui obsède le narrateur. Quelqu'un l'a lu, ce livre ?
Un petit peu.
Figure emblématique du café colonial, lieu où se retrouvent en fin de journée les coloniaux, échangeant leurs nouvelles et leurs considérations philosophiques, Vénesson est le plus avenant, le plus brillant, le plus charismatique de ses membres. Il a cumulé pas mal d'honneurs et de reconnaissances sous des régimes politiques fort différents et semble surnager dans la nappe de ce monde colonial moisi. Il présente un mélange de nonchalance, d'espièglerie et d'assurance qui en fait le point de repère pour les habitués, quelque peu désemparés et ineptes, au sein du petit monde du café colonial. Or, il se passe un jour un épisode à première vue quasiment anecdotique, qui en réalité va se révéler un passage à l'acte destiné à faire précipiter la situation, déjà précaire, de cet intermonde. La scène se passe toujours au café colonial, pendant une conversation un peu trop longue et alcoolisée. Je vais citer la scène comme le narrateur la décrit à monsieur le directeur, donc à son analyste, qui en fait, bon, même si tout est transposé. Dans ces bruits de vanité et d'importance, de revendications et de protestations, de petits couillers et des pions de jaquets, des ventilateurs et d'allées et venues, nous discutions, il y a quelques semaines, les mœurs les plus secrètes de nos amis et connaissances, leurs capacités sexuelles, leurs vices, réels ou imaginaires. Vénesson avait fait quelques-unes de ses plaisanteries habituelles et il m'avait moralement contraint à commander les mêmes whisky que lui. J'y ajoutais, au lieu du soda, l'eau minérale de régime qui m'a ordonné le médecin colonel, pensant ainsi à la fois affirmer mon indépendance et mon goût de compromis inutile. On en était venu à parler des pédérasties, en termes des corps de garde. Je ne me rappelle plus à propos de qui. Vénesson, contrairement à son habitude, s'est taisé. Il avait l'air un peu contrarié. Il se redressa en rougissant très légèrement pour prononcer tout à coup, comme s'il explosait, comme s'il en avait gros sur le cœur, une phrase qui partout ailleurs aurait été très étonnante et qui même au Café Colonial l'était un peu. Je sollicite de votre bienveillance, monsieur le directeur, l'autorisation de la reproduire presque dans les termes dont il usa Vénesson. Vous n'aurez aucun mal à reconstituer les termes tout à fait exacts. Donc, Vénesson reposa son whisky, leva sa belle tête socratique, qui ressemble aussi un peu à celle de Verlaine, et s'écria, « Bon Dieu, comme s'il suffisait d'avoir enfilé un autochtone pour être un pédéraste. Moi qui vous parle, je n'ai enfilé plus de 100. Et pourtant, regardez-moi, est-ce que je suis un pédéraste ?» Fin de citation. Alors, il s'ensuit un moment d'intervalle, de suspension. Le narrateur précise que tout le monde était vaguement au courant des frasques de Vénesson, sans toutefois en connaître les détails, et tout le monde s'efforça dès lors de trouver louable la sincérité de Vénesson, et en même temps opportun d'échanger au plus vite les sujets de conversation. Toutefois, le narrateur, qui est donc aussi l'analysant s'adressant à son analyste, perçoit à Lacan, ou n'importe lequel, perçoit dans cet épisode un point de non-retour, écrit Manoni tout de suite après le récit. J'avais les sentiments confus et gênants que Vénesson, en parlant ainsi, venait de mettre gravement en question quelque chose d'important. Mais je ne savais pas quoi. Cela avait rapport avec l'autorité de la machine, mais comment ? Naturellement, fin de citation, naturellement, le discours rebondira, la discussion rebondira à la sortie du café, à l'absence de Vénesson, entre les narrateurs et ses interlocuteurs habituels, un médecin colonel et un enseignant versé dans la philosophie morale. Est-ce que Vénesson était fautif ? Est-ce qu'il était un pervers ? Ou pas du tout, juste un homme incapable d'hypocrisie et finalement, sinon louable, du moins excusable pour cela ? Et ainsi de suite, chacun de ses amis y ayant de ses philosophèmes. Mais le narrateur ne cesse de préciser, en évoquant ses souvenirs, que là n'est pas la question. Il ne s'agit pas de porter un jugement sur Vénesson et ses agissements sexuels, mais sur ce que cette confession, qui n'en est d'ailleurs pas vraiment une, révélait de la situation, c'est-à-dire de la situation coloniale, subsumée ici sous l'allégorie de la machine. Ce qui paraît en effet étrangement inquiétant dans cette scène n'est pas tellement le contenu de l'aveu de Vénesson, étant donné que tout le monde était à peu près au courant et personne n'était particulièrement disposé à les blâmer pour ses actes. Ce qui impressionne le narrateur analysant en voie de décolonisation de soi, c'est plutôt la coïncidence entre l'aveu d'une jouissance pulsionnelle et le fait qu'elle soit revendiquée comme tout à fait ininfluente sur le sujet même. S'éventant de ses exploits, tout en mettant les autres au défi d'en tirer quelques conclusions qu'elles soient sur son égard. Vénesson semble soudainement incarner quelque chose de cette position jouissive mais hors relation, faisant de l'espace colonial un espace de déchaînement pulsionnel et en même temps de minéralisation de la personnalité. Vénesson revendique en somme une jouissance qui serait absolument étrangère à sa personnalité. Nous ne sommes pas très loin des parages de la Verleugnung. Je sais bien que je n'ai enfilé plus de sang, mais je ne suis pas un pédéraste.
Je n'ai pas compris ce que tu as dit, nous sommes bien...
Nous sommes dans une logique qui est celle de la...
Du démenti.
Du démenti.
Ah oui, du démenti.
Mais là, il est mis en scène, le démenti. Les grands auteurs du démenti ont des grandes notions sur lesquelles voilà, on travaille. Et... Mais là, elle est prise dans, de façon théâtrale, hein, présentée à travers ce petit théâtre colonial.
Excuse-moi, le démenti, tu le mets comme quoi, comme un synonyme de désaveu.
Oui, c'est l'internaute, donc c'est, on peut traduire ça, désaveu, oui, ou on traduit...
Oui, c'est désaveu, c'est pas le déni, c'est pas la dénégation.
Non.
C'est désaveu.
Oui.
Fernay,
non.
Tu le traduis comme démenti.
C'est pas la négation, c'est pas Fernay, non, c'est un clivage entre croyance et savoir. Et pas oui. Juste une négation de la chose, c'est une reconnaissance de la chose sans effectivement, c'est ce que tu
à la fois. La
comment?
C'est le déni de la réalité.
Non.
C'est pas le déni pervers. Hein.
Non, c'est
quand quelque chose, oui, quand, oui, quelque chose d'une croyance et d'un savoir ne sont pas accordés.
Sur le même objet, effectivement, c'est très fin ce que tu relèves là, sur le fait que d'un côté. La pulsion est active, enfin voilà, il y a quelque chose là se réalise de la vie pulsionnelle du sujet, mais sans que ce sujet consente à en être affecté. Voilà, ça ne change rien à sa représentation de lui-même, quoi.
Exactement.
Tout en reconnaissant quand même que voilà, il est traversé par.
C'est propre la structure perverse.
Et sauf que c'est local, quoi. C'est un fonctionnement local qui n'est pas forcément généralisable à l'ensemble de la vie.
Est-ce qu'on le distingue nettement du désaveu?
Ben non, ça c'est une question de traduction. La falloïe, non, le terme freudien, peut être traduit par désaveu, démenti.
Oui, j'ai lu le texte, en fait, c'est pour ça que j'ai ton texte sur démenti et votre interview, etc. Et justement, ça c'est une question vraiment intéressante à voir si. Si on peut, c'est le démenti n'est pas autre chose que le désaveu.
Oui, ben. Voilà. Mais Manoni utilise plutôt désaveu que démenti.
Oui, oui. Bon, il y a un. Faut compléter cet épisode par un autre. Je vais. Alors, je continue encore une deuxième citation pour. Et après, on pourra discuter peut-être de cette. Dans quelle mesure ces textes. On peut les rapprocher du texte célèbre, je sais bien, mais quand même. Hein, comment... En tout cas, les mauvais présages du narrateur vont se révéler juste par la suite. Hein. Vénesson tombe en effet malade. Immédiatement après cet épisode, on ne le verra plus pendant un bon moment au Café Colonial, jusqu'au jour où on reçoit une faire-part qui en annonce la mort mystérieuse. Par une maladie imprécisée. Dans le récit, il faudra alors attendre l'avant-dernier chapitre du livre, au titre énigmatique de Le chemin de fer nécropolitain. Le chemin de fer nécropolitain.
Nécro.
Pour assister, sinon au dénouement de cet épisode de l'aveu de Vénesson, du moins un épilogue qui les concerne et qui les rend à la fois plus énigmatiques. Alors cela se passe donc pendant les obsèques de Vénesson. Au petit matin, le soleil est déjà brûlant. Depuis quelque temps, une sécheresse sévère touche l'île et les sauterelles sévissent. Tous les personnels officiels de la colonie s'étassent dans un wagon du petit train qui relie la ville à la nécropole, située à l'extérieur. En fait, c'était comme ça à Antananarivo. Hein. Il y a les cimetières militaires, par exemple, les cimetières coloniaux, c'était en dehors de la ville et il y avait des chemins de fer.
Nécropolite.
Les indigènes occupent un autre wagon et les convois s'achèvent par un wagon corbillard avec Vénesson. Cela rassemble à bien d'autres funérailles dans la colonie, si ce n'est que l'atmosphère des fins du monde est renforcée par la sécheresse et par l'invasion des sauterelles. La cérémonie se déroule selon les protocoles habituels. Les gouverneurs et les chefs de la police sont les premiers à prendre la parole. Il y a du clergé, les femmes portent des gants noirs et des habits sombres en dépit de la chaleur ambiante. Le narrateur avoue son angoisse face à une cérémonie, organisée elle aussi par la machine, où tout se déroule comme d'habitude, et presque rien de la singularité du défunt n'est transparent. répétitive et réitérable à l'infini, bureaucratique et rhétorique à la fois, ainsi paraît aux yeux du narrateur cet adieu collectif à Venaisson, si ce n'est que pendant qu'il est prolongé dans de telles réflexions peu agréables, dit-il, il s'aperçoit d'un détail qui confère soudainement un autre sens, voire un sens tout court, à ces rituels quelque peu machiniques. Alors je dois encore citer un passage, parce que effectivement la forme du récit est très importante. Occupé ainsi à une sorte de spectacle pur, je regardais sans plus penser quand j'aperçus par hasard un jeune originaire, assez pauvrement vêtu, qui s'éteignait timidement à l'écart et s'émouchait fréquemment à la façon traditionnelle des originaires, c'est-à-dire sa mouchoir. En l'examinant mieux, je m'aperçus qu'il pleurait avec discrétion. Et je reconnus un des jeunes boys du café colonial, un de ceux qui s'est précipité à l'arrivée de notre ami pour lui verser son whisky quotidien. J'éprouvais d'abord le tout petit commencement de ces sentiments qu'on appelle le scandale. C'est-à-dire que j'avais une peur assez vive, comme si c'était ma faute, que les dignitaires qui règlent le deuil ne vissent à l'apercevoir, ce qui aurait pu créer, du moins je l'imaginais, une situation à peine supportable. Mais à mon grand soulagement, la douleur égoïste et déplacée du jeune originaire n'attirait nullement l'attention des responsables des pompes. Cela me rassura, pour ainsi dire, sur mon compte. Il faut croire que je m'en étais senti vraiment très coupable. Et j'ai fini même par trouver qu'il était, somme toute, juste et satisfaisant pour l'esprit qu'il eût à cette célébration un représentant non officiel, discret et presque secret, de ce qu'avait été la vie non officielle, discrète et faussement secrète de notre ami. Je me demandais même si la cérémonie, en tant que pure cérémonie, n'était pas plus complète ainsi. Je me rappelle maintenant que, juste à ce moment, une autre pensée. Je ne sais même pas si c'était une pensée. C'était peut-être une prière. En tout cas, c'était une phrase qui me venait comme il arrive sans qu'on puisse savoir d'où. Je vous la livre presque, puisque je me suis mis en tête de vous faire une description complète, mais je ne sais pas si elle a vraiment une signification. Alors, cette phrase était « Est-il possible, répétais-je, et même reprenant une expression que je tiens d'une bonne de mon enfance, je me disais, est-il Dieu possible que seules nos erreurs soient capables de donner un sens à notre vie ?» Fin de citation. Alors, sur un mode presque onirique, ça ressemble à une scène de rêve, mais Manoni livre ici la solution, si de solution peut-on parler, du drame colonial, au sens théâtral du mot. C'est souvent la notion de drame qui reprend des Polizère, Georges Polizère. La présence imprévue et presque inaperçue du garçon indigène du café colonial au sein du dispositif impersonnel des obsèques réintroduit une dimension subjective, pulsionnelle dans la nécropole coloniale. Elle provoque d'ailleurs un mouvement émotionnel chez le narrateur ayant de la honte, un tout petit commencement des sentiments qu'on appelle le scandale, au sentiment de culpabilité, il faut croire que je m'en étais senti vraiment très coupable, jusqu'au soulagement et même au sentiment qu'il était somme toute juste et satisfaisant pour l'esprit qui lui à ses célébrations représentant non officielles, etc. Finalement, les narrateurs ont conclu que c'est bel et bien la présence irrépressible, égoïste et déplacée du garçon autochtone dans l'enceinte de la nécropole coloniale qui complète la cérémonie, laquelle acquiert, grâce à cette présence quasi hors scène, l'essence qui lui faisait défaut. Alors, je crois qu'il demeure quelque chose, je ne sais pas comment vous la... Ce serait intéressant de discuter avec vous de comment vous la recevez, cette scène. Je crois qu'il demeure quelque chose d'énigmatique dans cette description, dans cette scène, comme dans un rêve d'ailleurs, dans tout rêve, bien sûr, demeure quelque chose d'obscur, d'inanalysable, ce que Freud appelait l'ombilique du rêve. Est-ce que les garçons en question étaient amoureux de Venaisson? Est-ce qu'il est victime d'une sorte de séduction traumatique? Est-ce que sa seule présence des vivants dans ce contexte des morts enterrant les morts, comme écrit Manoni, constitue une sorte de revanche du colonisé, voire les présages d'un passage de relais? En tout cas, les doubles épisodes de l'aveu impromptu de Venaisson au café colonial et de la présence impromptue du garçon des cafés à ses funérailles paraît juste et satisfaisante pour paraissant juste et satisfaisante pour l'esprit, dans la mesure où elle semble réintroduire cette dimension libidinale qui configure la situation coloniale, la rendant irréductible à une domination purement objective, économique et militaire. Ça sera une thèse fondamentale qui aujourd'hui peut paraître assez banale, mais qui à l'époque, au début des années 50, alors que la décolonisation politique est encore fort loin d'être accomplie, ne manque pas d'audace. Mannoni va en effet prendre ouvertement les distances d'un psychologie de la colonisation, des lectures marxistes et orthodoxes, qui envisagent le colonialisme à partir des catégories plus générales, comme celle d'exploitation et d'impérialisme. Il en critique ouvertement l'économisme, alors même qu'il avait participé encore en 1948 à une enquête de la revue Clarté, proche du Parti communiste français, intitulée « La psychanalyse, science ou mystification ». Et dans sa préface à la seconde édition anglaise de 1964, le texte que je rappelais tout à l'heure, « The Decolonization of Myself », écrite donc après l'indépendance de l'Algérie, et lorsque les décolonisations sont en voie d'achèvement, il en rajoute une couche en considérant que les communistes français, en dépit de leur dévouement, écrit-il, n'ont joué qu'un rôle marginal dans un tel processus, et c'est là parce qu'ils seraient restés attachés, écrit Mannoni, aux auteurs abstraits de la théorie économique, sans prendre au sérieux la singularité de la situation coloniale. Alors, comme je l'ai mentionné au début, Mannoni s'était rapproché de la CGT du Parti communiste après la guerre, pour s'en éloigner toutefois assez rapidement vers la fin des années 40, probablement aussi à cause de la tentative d'excommunication par le PSF de la psychanalyse, mais aussi pour des raisons plus politiques liées à la frilosité du Parti communiste sur la question coloniale. Alors, dès l'introduction en psychologie de la colonisation, Mannoni considère que le colonial, qui ne correspond pas du tout au colonisateur, l'homme colonial n'est pas l'homme. Mais je reviendrai dans la discussion si vous voulez, mais qui représente plutôt les colons. Et l'homme européen né et ayant évolué dans une situation coloniale déjà établie et figée par le partage racial. Ce n'est pas les conquérants, pour Mannoni. L'homme colonial, c'est celui qui vit dans un monde qui est pris dans un dualisme immobile et qui paraît. Donc, qui ne correspond pas aux colonisateurs, mais qui représente plutôt les colons et l'homme européen né et ayant évolué dans une situation coloniale déjà établie et figée par les partages raciaux, ne recherche pas simplement, donc l'homme colonial, les profits, mais des satisfactions, écrit Mannoni, plus obscures et plus dangereuses, pour lesquelles il est même disposé à sacrifier les profits économiques. On verra que ces satisfactions ont intimement à voir avec les fantasmes d'un dépassement de la castration. C'est là en effet le noyau de la thèse anthropologico-analytique de Mannoni. Le sujet colonial flirte de très près avec un déni de la castration, car l'autre colonisé lui assure un champ de domination et de jouissance à la fois quasiment illimité et en même temps obscène, c'est-à-dire partiellement occulté, inavouable, et sublimé par des idéaux civilisationnels et une idéologie du progrès. Comme pour Vénesson justement, on peut dire dès lors que la machine représente les volets littéraires et autres analytiques des psychologies de la colonisation. Voilà, il faudrait vraiment lire ces deux textes en parallèle. Ils ont d'ailleurs, je l'ai rappelé, un destin similaire, les deux ayant été publiés sur trois titres différents. Pour ce qui concerne Psychologie de la colonisation, c'est son premier titre, Prospero et Caliban, le deuxième dans les années 60, et puis le troisième dans les années 90, à la mort de Dr. Mannoni, c'est « Le racisme révisité, Madagascar 47 », le titre choisi par Maud Mannoni. Alors, la machine est en réalité, voilà, c'est comment ces livres, d'ailleurs, ces livres « Le racisme révisité », où il est tellement peu question de corps, et tellement peu question de différences sexuelles, hein, très peu, et c'est assez intéressant de voir que, par contre, dans son pendant analytique ou auto-analytique, c'est autour de cette question-là que la situation coloniale est envisagée. Même si c'est simplement par ces deux micro-épisodes. Hein, l'aveu de Vénesson qui précipite la fin du monde colonial et cette scène assez onirique et en partie énigmatique et en même temps très éloquente des obsèques. peut-être encore plus saisissante lorsqu'on sait que Manouni s'était intéressé beaucoup au culte des morts à Madagascar. La civilisation malgache, et en particulier Merina, est fortement organisée autour du culte des morts et le fait que régulièrement on déterre les morts, hein, et on les porte en triomphe, les ancêtres, hein, dans des fêtes, etc. Et c'est peut-être pas complètement hasardeux si c'est dans une nécropole, mais c'est une nécropole, cette fois-ci c'est la nécropole des coloniaux, qui est quelque chose, c'est... Alors, je ne sais pas comment lire l'agencement entre ces deux scènes. La première, j'ai essayé de la lire comme quelque chose qui fait signe vers la question du désaveu, du démenti. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet qui à la fois est pris dans une jouissance sans castration, mais qui ne la subjectivise pas, c'est subjectif. Je ne suis pas... comme s'il suffisait d'un filet pour être. Et de l'autre, la présence du garçon venant saluer quelque part les héros du monde colonial, mais sous une forme qui reste en partie obscure. Alors sans doute, c'est la voilà qu'on peut sur laquelle on pourrait interpréter, sur laquelle on pourrait peut-être se perdre dans une série d'interprétations, mais comment la... Est-ce que c'est quelque chose... Mais qui est présenté comme sous la forme aussi d'une oscillation étrange, hein, entre les narrateurs qui s'identifient, qui culpabilisent pour cette présence, comme s'identifiaient au début à Vénesson, et puis qui se termine par un effet de soulagement. Voilà ce que je voulais faire pour l'essentiel ce soir. Rester vraiment, ne pas rentrer dans les livres, hein, de vous donner éventuellement à ceux qui ont le temps et l'envie d'ici 3 semaines de les lire, Psychologie de la colonisation, avant d'en parler, d'y venir aux prochaines séances. Et rester sur les bords dans la période de gestation, hein,
une sorte de genèse archéologique, quoi.
Oui.
C'est étrangement intéressant de voir à la fois évidemment l'idée d'une géographie de la psychanalyse, mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a le plus, qui est trotté un peu dans mon esprit, et plutôt du côté de la fin, plutôt derrière presque, je pense que tout ce qui se passait avant, c'est une grande similitude avec le texte de Camus, L'étranger. Qui est aussi une cérémonie en quelque sorte de funérailles, et dans laquelle se nouera le drame colonial d'ailleurs, en Algérie, sur le fait que l'assassiné n'a pas de nom. Il s'appelle l'arabe dans tout le texte. Ce qui fera dire à Edouard Said, dans l'impérialisme et culture, que Camus est un homme moral dans un monde immoral. C'est assez proche, hein, avec cette scène-là. Et peut-être que dans l'esprit même de ce séminaire, que je trouve extrêmement intéressant et tout à fait d'actualité, c'est peut-être effectivement en déterrant, c'est-à-dire que ça se passe dans un cimetière, nécropolitain. C'est là où ça se passe. Et qu'il s'agit de déterrer, en effet, des ossements et peut-être même qu'il y a à faire beaucoup de biopsies et d'autopsies, à chaque autopsie avec une écriture qui ne soit pas de l'ordre du médical. Mm-hmm. Très intéressant. Et ton choix fixe sur la géographie, j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que il y a 2-3 ans, j'avais lancé un cartel à Rabat sur le texte de Derrida, Géopsychanalyse. Même si le sujet s'éloigne un tout petit peu de ça, je pense réellement que on est entre. L'enjeu aujourd'hui, tu parles de diffusion de la psychanalyse, aujourd'hui, c'est effectivement entre géopsychanalyse et géopolitique. C'est tout à fait ça.
Oui, oui. Je crois que les similitudes avec l'étranger, c'est que tu as remarqué, sont d'autres commentateurs aussi ont rapproché ces textes.
Ah oui. Oui, en effet. Je ne connaissais pas ce texte. C'était assez...
Alors, c'est un texte très étrange parce qu'en effet, aussi, on les lit avec la même attitude avec laquelle on écoute en analysant. C'est-à-dire, on a beaucoup de mal parfois à savoir. À chaque fois, on les lit en entendant des morceaux différents, ou c'est très difficile, c'est un flux. Personnellement, il m'a fallu plusieurs lectures pour repérer quelques points de bascule du texte. Uh-huh. Parce que c'est construit sur un mode où, d'une certaine manière, effectivement, c'est une série d'associations, de l'alternance entre détails de la vie quotidienne et considérations philosophiques, d'exercices de rhétorique. Donc, c'est un texte. Assez difficile à lire, mais qui précipite. Et puis il y a encore, disons, une sorte d'épilogue dans l'épilogue. C'est-à-dire qu'après ces funérailles de Venesson, il se passe le tout dernier chapitre du livre. Désormais, ce monde, l'apocalypse a eu lieu, le monde est déconfit, mais il a un dernier sursaut, ce monde colonial. C'est-à-dire, on décide, la machine décide d'intituler une rue à Venesson. Et donc, les derniers représentants de ce monde colonial se rendent à la cérémonie, donc ça finit par cette cérémonie onomastique. Hein, en fait, c'est une petite rue qui longe un bidonville. C'est une petite rue qui est entre un bidonville et la prison. Le narrateur est assez heureux de savoir que cette rue est appelée par les malgaches la rue de cœur perdu. Il trouve ça poétique, avant d'apprendre que le cœur perdu désigne, dans la langue mérina, les suicidés. Voilà. Voilà la dernière scène sur laquelle c'est...
C'est le texte, il date du camp
51. 51.
Écrit, rédigé en 51.
Oui. Rédigé, alors ça, on sait probablement en parallèle avec son livre, avec la psychologie de la colonisation, mais Manoni attend un peu, ne peut pas le publier avec une année de distance. Il fait d'abord sortir son essai et après son texte plus. Alors. Oui.
Il y a un énorme poème très très long qui a été édité à l'occasion de l'hommage du colloque d'ailleurs qui a été dédié à ce livre. Il est juste un très très long poème qui est extrêmement malaisant dans la lecture et qui manque beaucoup de la finesse qu'il y a là. Et où pendant des pages et des pages, il y a une espèce de rhétorique, de dialectique, je trouve pénible sur le noir et le blanc, le noir, etc. Toutes ces histoires. Et oui. Là, c'est une écriture quasiment romanesque, littéraire.
Oui, je vois que, je crois, un Hipponomara. C'est un grand poème, un long poème qui porte un nom malgache.
Il me semble
et qui est,
que c'est
oui, qui est repris dans les carnets. Dans les...
C'est ça, exactement. C'est dans les carnets dans lesquels, avec lesquels tu as commencé tout à l'heure, sur quels étaient ces projets qui sont aussi un petit peu curieux ce qu'il avait mis, projeté de faire.
Curieux?
Oui, enfin, on peut trouver ça.
Oui, parce que c'est un projet qui oscille encore entre l'idée qu'il pourrait y avoir une nouvelle vie dans l'espace colonial, hein, à travers la militance politique, les groupes communistes, une vraie vie franco-malgache. Mais, enfin, il y a un moment où Mannoni croit qu'il pourrait y avoir un renouveau sur place, quelque chose. Et en fait, non, l'échec de sa courte carrière de fonctionnaire et la révolte de 47 viennent marquer qu'il n'y a pas de renouvellement interne possible de ce monde. Je me semble que c'est ça qui a mis en scène. Alors l'onomastique, le fait d'intituler une rue à ces personnages, est pris par Mannoni comme geste aussi de... comment la monumentalisation qui permet en réalité l'oubli, l'effacement, le refoulement. C'est-à-dire, intitulé une rue à Venesson signifie effectivement les priver une fois pour toutes de toute cette ambiguïté ou qu'il avait. Et donc ça se termine par une méditation comme ça sur la monumentalité comme forme de refoulement ou d'oubli, mm-hmm. quelque chose qui va bien. Mais voilà, c'est aussi, tout n'est pas... voilà, c'est son charme aussi, le fait que quelque chose reste, effectivement, c'est à mon sens aussi. Interprétable.
L'ambiguïté existe notamment pour la cause, évidemment, Fanon l'avait pas mal repéré, tout ça. Oui. Et existe aussi dans son imprégnation assez profonde du monde colonial dans lequel il a réellement pris part en ayant notamment des responsabilités dans la direction. Les affaires coloniales sur place. Et c'est toute cette ambiguïté-là, et peut-être même...
Ça parle de... C'était 6 mois, il a préparé un numéro de la revue de Madagascar, choisi des photos... Enfin, il n'a pas... Je crois qu'il a... Ça a échoué, il n'a pas fait grand-chose pendant ces 6 mois, à part diriger un numéro. Et, par contre, il avait fait, pendant les presque 20 années passées à Madagascar, il avait fait une mission dans le sud de l'île pendant une famine, une mission de photographie, un rapport sur la famine dans une région méridionale de Madagascar. Oui. Donc il avait, ça c'est son, qui existe dans les archives et qui est plutôt une dénonciation, hein, de la... Et comment l'agriculture coloniale et l'insistance sur les plantes dont on tire les caoutchoucs avaient provoqué la carestie, la famine dans le sud. Donc il y a... Mais je ne sais pas si on peut... Si on peut vraiment les qualifier d'une carrière de fonctionnaire colonial. Ça peut être... Mais oui, il avait eu des tentatives.
En le lisant, je ne sais pas, mais ça c'est
oui.
Ancien. Autre similitude avec peut-être que c'est une topographie algérienne, c'est quelque chose qui le rapprocherait peut-être, sauf que nous pas le même destin, loin de là, avec Bourdieu, qui était aussi, il a dû séjourner longtemps en Kabylie et travailler en Algérie. Sous les ordres de l'administration coloniale, sauf qu'il a fait une autre œuvre, tout à fait autre œuvre. D'ailleurs, au séminaire à Espace Analytique, je crois que c'est le mois prochain, vous avez présenté avec quelqu'un qui était l'élève et l'ami de Jean Matignon, et l'élève aussi de compagnon de Pour Dieu, s'appelle Tassadit Yassine, qui est une anthropologue, et on a rassemblé des photographies de Pour Dieu. Je t'enverrai les. On a rassemblé, donc j'ai fabriqué un diaporama, ça devait se passer le mois dernier d'ailleurs, mais avec la grève il a dû annuler par deux fois, les photographies de Bourdieu pendant son travail. Et ces photographies n'avaient jamais été exposées jusqu'à deux ou trois ans avant sa mort, en 2001-2000, que deux journalistes photographes s'intéressent à ça et vont lui faire sortir des cartons et des cartons. C'est des milliers, des dizaines de milliers de photos, c'est énorme.
Des dizaines de milliers de photos de Bourdieu en Égypte.
Absolument. Dizaines de milliers ?
Énorme. C'est après ce que. Et le tri. Oui.
C'est dingue.
Ben oui, oui. Moi, je dois avoir autant presque de photos. Et à l'époque, il n'y avait pas le portable. Toujours est-il que ces photos vont faire l'objet d'un tri très minutieux. Et
elles ont été déposées,
j'imagine. Oui, oui, elles sont même publiées.
D'accord.
Il y a un livre.
D'accord.
Dans lequel vous trouverez peut-être, une, je ne sais pas, 200 ou 250 photos. Mais il y en a enfin, peut-être des milliers, je ne sais pas si c'est des dizaines. Et sont véritablement, notamment avec son livre La Maison Kevin, c'est à partir de là qu'il commence. Mais au-delà de ça, il photographie et tout, partout. Ça lui servait à lui d'espèce de mémento, comme pour écrire après. Et il décrivait ça. C'est très intéressant. Et cette similitude, c'est avec ce truc-là, sur cette petite rue, par laquelle, donc, entre le cimetière et la prison, il y a quelque chose d'assez drôle que le. On trouve ça aussi chez Tanjavus, Hossein Tanjavus, parce que vous voyez qui c'est un écrivain dramaturge qui s'occupait du théâtre de Katib Yassine, à Tanger. Il s'appelle Tanjavus, même s'il n'est pas marocain, il porte le nom de Tanger, mais ce n'est pas un marocain. Il a aussi dans un bouquin qui est, je vous conseille, qui s'appelle Clameur, un petit livre comme ça, texte, un essai, très très, très poignant, extrêmement. Vraiment, tu lis, chaque ligne est un coup de poing. Et il décrit, notamment dans un chapitre, le plan de la ville coloniale. Et lui, bon, il veut remonter beaucoup, beaucoup plus loin que les histoires de 60, 62. Il remonte à quasiment bien avant Abdelkader. Il décrit les prémices de la colonisation. Très intéressant. Franchement, pour cette histoire d'option, de parler de géographie, je pense. Et peut-être même que par là, je ne sais pas si tu finiras de la géographie dans 4 ans et demi à l'extension, enfin du psychanalyse dans l'extension, ce qui veut dire. C'est encore mieux que la question de la diffusion. Mais ça serait quelque chose d'assez logique. Voilà, je vais te dire. Merci.
Merci, Magie.
C'est très intéressant.
Clameur.
C'est très intéressant.
Eh bien, s'il n'y a pas d'autres...
Peut-être juste une chose sur la construction que tu fais, je dois dire que j'ai commencé à lire ce livre puisque tu m'avais donné, la machine. J'ai trouvé ça particulièrement ardu. Je m'en suis arrêtée exactement à la scène cruciale du café colonial où je ne sais pas s'il faut l'appeler l'homme colonial ou le colon d'ailleurs. Je ne me rappelle plus son nom de famille, là, donc celui qui meurt.
Benesson.
Benesson. C'est d'ailleurs bizarre comme nom, enfin, ça sonne bizarre en français, c'est étrange. Venaison, bon, tu vois ce que ça évoque la chasse à cour, enfin il y a un truc
oui.
Un peu étrange.
Mais étonnamment, il y a un échange pendant les séminaires, problèmes cruciaux,
ouais.
si tu crois, où Manoni discute avec Lacan de son personnage.
Oui.
Et il justifie son nom par vene son. Vene.
Vene, vene le son. Verbe.
Venir. Vene son.
D'accord, d'accord. Bizarre.
Et puis il dit que, voilà, c'est un peu anecdotique, mais c'est dans la... On est quoi, le problème crucial, c'est quoi, c'est l'année 63, oui. Et il raconte, oui, pourquoi il a choisi ces noms, parce que ça n'existe pas en français.
Oui, oui. Ben, c'est ça, ça sonne bizarre.
Et parce que ça c'était, voilà, c'était sexué ou...
C'était sexué?
Oui. Ou sexuel, ça sonnait comme sexuel.
Curieux, oui. Mmh. Bon, c'est mmh. sa sensibilité.
Oui, oui. Mmh.
Mais en tout cas, sur l'articulation des deux scènes, je me demandais si effectivement, parce que c'est ce que tu proposes, de les lire ensemble, si d'une certaine manière, la scène de l'enterrement, qui est une scène en fait protocolaire, c'est-à-dire c'est intéressant parce que c'est la déritualisation du rituel de la mort, c'est-à-dire il y a enterrement et en même temps on voit bien dans le récit de Manoni que c'est pas un rituel au sens, disons, d'une intégration, d'un partage des affects, mais c'est plutôt un rituel mort, c'est-à-dire où voilà, c'est juste un protocole, c'est comme ça que ça doit se passer, quoi. D'où le nécropolitain, enfin je sais pas, c'est la nécropolis, quoi, mais sous une forme morte, justement. Et le seul élément vivant, et du coup, peut-être ça pourrait constituer le répondant de la scène où on voit Venaison, donc, qui voilà, ne peut pas se laisser affecter par sa vie pulsionnelle. Qui ne fait pas retour vers lui pour modifier le rapport qu'il a à lui-même, la représentation qu'il a de lui-même, et donc c'est mort en fait, c'est de la pulsion à vide en quelque sorte, qui est sans effet, quoi, pour le sujet qu'elle traverse. D'une certaine manière, c'est construit à l'envers, c'est-à-dire là, il y a quelqu'un qui est affecté dans un contexte qui interdit en quelque sorte, et c'est la gêne comme ça du narrateur face au fait que, au fond, qu'est-ce qu'il fait cet homme ? Il fait ce qu'on fait dans un enterrement quand on est affecté par l'événement de la mort, on le marque émotionnellement. Bon, et c'est le seul personnage, semble-t-il, qui est cette notion-là, quoi. De rendre vivant le rituel de la mort. Mmh. Et ce qui fait apparaître tous les autres, et la machine va dans ce sens-là, comme désaffectée, quoi. Et effectivement, oui, on voit bien. Voilà,
c'est une lecture, entre guillemets, optimiste.
Hein, c'est une lecture optimiste.
Parce que je crois que c'est aussi quelque chose qui met en scène. Je suis resté très en deçà des concepts ce soir, je n'ai pas mobilisé. Mais une des notions clés de Manoni pour la situation coloniale, c'est celle des malentendus. Non, mm-hmm. Donc il y a quelque chose, il y a une rencontre qui en réalité ne se fait pas pour lui. C'est pour quelque chose. Donc là, on voit aussi une scène où quelqu'un qui met en scène aussi, qui en rajoute à l'impossible de la rencontre. C'est-à-dire que ce jeune homme peut manifester quelque chose de son affection seulement en absence de la. D'une certaine manière, elle pourrait. C'est parce que l'autre a disparu, parce que le maître a disparu, que les serviteurs, entre guillemets, peuvent exprimer quelque chose. Il n'y a pas de rapport.
Non,
tout
vrai.
Comme Venaison, lui, il fréquentait tellement de jeunes autochtones, mais il disait tout ça, ça ne m'affecte pas. L'autre n'a
oui,
pas.
C'est l'autre aspect du malentendu.
Oui, c'est l'autre versant du malentendu qui, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il finalement vient vraiment les boucler, les confirmer,
ça,
les rendre, les mettre un peu en abîme. Même si, oui, il y a aussi une présence, c'est quand même la seule présence vivante, effectivement, aussi, à l'intérieur, elle s'est présentée comme ça aussi.
Bon, et intituler ce texte La Machine, c'est bien mettre l'accent sur le fait que voilà, il y a une sorte de mécanisation des rapports, quoi. La mécanique relationnelle produit comme ça des effets de non-rencontre avec soi et avec l'autre, quoi. Mais autant avec soi qu'avec l'autre, parce que Venaison ne se rencontre pas lui-même. La situation coloniale, voilà, autorise un certain exercice de la jouissance voilà, plus large que celui qu'autorise voilà, les formes occidentales de civilisation, ça a un coût, cette espèce d'exercice-là de la jouissance, c'est que tu te rencontres pas. Bon, voilà, c'est un malentendu qui a plusieurs facettes, pas seulement dans son aspect relationnel avec l'autre, quoi, mais aussi voilà, dans une forme de désertion de soi-même. Quoi. Il n'y a personne à la place de venaison. Quoi. Enfin, voilà.
Tu disais tout à l'heure que tu pouvais le prendre comme un rêve d'un analysant.
Ouais, ouais, ouais.
Comment toi tu l'aurais... Bon, que malentendu il y ait, ça. C'est la chose la plus attendue, qu'il n'y ait que des équivoques, des malentendus. Mais j'aimerais bien savoir comment tu pourrais l'aborder comme un récit d'analysant. Notamment, ça c'est moi qui le dis, enfin, c'est que dans le plus que le malentendu, le mensonge, je vous l'avais dit dans l'interview, le démenti, peut-être que tu reviendras là-dessus, sur les autres séquences. Mais je ne crois pas que sous colonialisme, il puisse y avoir dans la pensée de ceux qui se nourrissent du colonialisme, qui vivent du colonialisme, l'idée d'un anticolonialisme, sauf du côté de celui qui est opprimé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être celui qui pense et qui vit du colonialisme et en même temps être celui qui pense l'après. C'est plus qu'un malentendu, c'est un impossible. Hier, je feuilletais Zweig, c'est un recueil, disons, complet, avec ce titre bien connu, Le monde d'hier. Je pense que c'est. Il y a quelque chose de l'ordre d'un impossible à penser, et Mallory, par sa névrose, très probablement, pouvait être pris dans cette ambivalence. C'est-à-dire que les relents, peut-être, de culpabilité, dans lesquels il pouvait patauger, lui-même qui était dans une espèce de temps, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être même pré-psychanalytique, je ne sais pas si tu connaissais le texte de Annie Onzieux, un vieux texte sur le temps pré-psychanalytique. Il est dans une espèce de truc, c'est ça, à la fois sa grandeur et sa... Voilà. Qu'il soit dans une époque. Et ce qui le sort, c'est la psychanalyse. Sa sortie par le haut, c'est la psychanalyse. C'est certain. C'est pourquoi qu'il écrit à Lacan comme il écrirait au chef de caserne. Exactement, monsieur le directeur. Jamais Lacan ne se référait appeler monsieur le directeur. Jamais de grand jamais. Donc c'est vraiment le petit apprenti.
C'est un directeur qui est dépossédé, qui n'a plus aucune influence sur la machine. Donc c'est un drôle de directeur. Les livres commencent, il écrit un directeur alors que le directeur est au chômage quelque part, est désœuvré, parce que l'administration vient d'introduire un fonctionnement automatique.
C'est ça, et voilà la machine.
Donc c'est, voilà, ça c'est la situation initiale, théâtrale, étrange, un directeur qui ne dirige plus rien.
Que ce soit dans la place.
Mais oui, je crois que tu as raison sur le fait que Mannoni, c'est pas du tout un penseur anticolonial. Enfin, on peut pas le prendre. Si on cherche d'en faire un précurseur de Fanon de ce côté-là, bien sûr, ça marche pas.
C'est vraiment pas.
Par contre, c'est celui qui, d'une certaine manière, qui en partie permet aussi cette prise de parole par Fanon. Y compris. Donc il y a quelque chose, il y a un passage des relais très important. Mais c'est un penseur de la décolonisation. Ce qui est intéressant, c'est aussi les impasses et les difficultés de cette. C'est un penseur de la décolonisation plutôt que de l'anticolonial, et d'une décolonisation qui est d'une certaine manière interminable, ou qui se présente déjà comme interminable, comme une analyse, enfin, de quelque chose qui peut être. Qui est intriguant dans ça, mais c'est pas. Après, il y a aussi cette chose qui est repérée par certains et que je pense aussi être tout à fait. Vraiment un vrai passage des relais, et la prise de parole par Fanon en 52 libère complètement. Et pour Mannoni, là, véritablement un soulagement. Enfin, quelqu'un a pris, y compris contre moi, y compris, voilà, a pris la parole à quelqu'un venant de ce monde. et qui a les titres pour le faire. Et l'analyste ou les blancs se destituent, laissent. N'est pas un plus à plume pour parler de cette question. Désormais, c'est d'autres qui en parlent. Ce sont ceux qui. C'est à eux de décider, effectivement. Donc, il y a ça. Je pense que c'est absolument. Oui. Ces passages. Mais c'est cette articulation ou ces passages des témoins est intéressant à réviser.
Absolument. C'est pas. Non, mais c'est là. C'est incontestablement peut-être le seul à nous laisser une empreinte de qu'est-ce que l'ère coloniale vue par...
Oui, et puis il y a cette résurgence de certaines... Parce que quand même, on ne se libère jamais des... Ce qui est aussi intéressant, c'est la cette résurgence tout à fait... Parce qu'on ne se libère jamais de rien, en fait. Mais de certaines questions d'humanonie pré-psychanalytique dans ces textes... comme je sais pas, je sais bien, mais quand même, ou même dans ces textes sur l'analyse originaire, dans des textes tardifs, y compris dans les tout derniers textes, où quelque chose se réjoue, ou est théorisé à nouveau, de l'intérieur de la clinique psychanalytique, de la théorie psychanalytique, de la métapsychologie, mais qui en fait concerne aussi un bilan qu'il fait de ces parcours-là. Par exemple, dans les textes sur l'analyse originaire, tout est construit sur le fait que quelque chose de l'analyse se joue hors analyse, non, dans une relation, il reprend la relation de Freud et Fliess, mais c'est très difficile de ne pas y voir aussi les fonctions qu'a eu Fanon pour lui.
Bien sûr.
C'est-à-dire, au fond,
c'est son
Fliess. Ce n'est pas Lacan qui a décolonisé Emmanoni, c'est Fanon. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une relation transférentielle qui est hors du cadre analytique, mais qui est décisive, pour la, y compris pour l'issue de l'analyse. Ça, c'est toute la méditation que proposent les derniers textes de Manoni sur l'analyse originelle. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui est remis, qui continue à parcourir son écriture ou son œuvre, même si il ne traitera plus officiellement des questions coloniales ou postcoloniales. Mais donc l'idée, ça serait, si on y arrive, ou si j'y arrive, faire à la fin, dialoguer un peu les tout derniers textes avec les tout premiers. Les textes vraiment un peu métapsychologiques, et relire un peu les. Son texte sur les démentis, par exemple, qui lui est construit à partir d'autre chose, apparemment, à partir de l'usage des masques dans les rituels, ou... mais voir de quelle manière il a pu aussi être affecté par cette question.
Decolonization of myself, ou la question de la désidentification aussi.
Oui.
Le procès de son analyse, quoi. Mmh. Et c'est pas avec la compte, c'est avec Césaire, avec Manu.
Oui.
Dans le récit, que je n'ai pas lu, cet homme qui pleure, il était dans une relation amoureuse avec cet homme, une relation consentie. Ou une relation d'assujetti qu'il ne pouvait pas refuser.
Ah ben ça, on n'en sait rien.
Le récit ne le dit pas.
On n'en sait rien.
Ouais. On ne sait pas sur quoi il pleure, en fait.
Non.
Il peut pleurer aussi sur le deuil impossible d'une violence qui lui a été faite et dont il ne sera jamais, qui ne sera jamais reconnu. Il ne pleure pas forcément sur la perte d'un amant.
Bien sûr qu'on n'en sait rien, mais quand même, ses larmes saluent quelque chose ou quelqu'un.
Oui, je ne sais pas si c'est quelque chose mais... au présent ou si c'est quelque chose au passé.
Non, c'est pour ça. Mais c'est pas forcément.
Et comme vous dites, on peut le prendre aussi comme un récit d'analyse. Il m'est venu une plaisanterie au moins aussi salace que celle de cet homme au café colonial. Qui enfile les autochtones, c'est-à-dire qu'il n'approfondit jamais la relation. Et j'ai eu cette mauvaise pensée qu'il se contente de pénétrer des rectums, il ne va jamais jusqu'au côlon.
Pas mal.
Merci.
Heureusement,
ça peut faire en bonne. Je crois qu'il faut quitter la salle avant que. Et merci et pour une fois semaine pour la suite si vous voulez.